Immaculat, bonjour. La belle-mère, bonjour. Alors, bon mardi 21 juin de 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis pas sûr de voir tout le monde s'afficher aujourd'hui, bizarrement. C'est particulier, là. L'affichage est un peu spécial ce matin. Alors, j'espère que vous allez bien. Je crois que vous m'entendez bien puisque je vois les sous-titres s'afficher. Hop, alors. Moi, je baisse le volume. Voilà. Je vois pas tout le monde s'afficher, malheureusement. Donc, on va espérer que la problématique est simplement chez moi. Bonjour à mon père, à ma mère. Il est 8h23. On a encore quelques minutes avant de débuter officiellement. Alors ce matin, puisqu'on est dans la semaine de la Saint-Jean, la fête nationale des Québécois, on va étudier pour cette semaine Jérémie au chapitre 29, le verset 7. Pour ceux qui veulent déjà aller y jeter un œil, Jérémie 29, 7. Marie-André Farley, bonjour. Shalom la belle-mère. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Merci Marie-André. Mi compadre, el hermano Edwin, Dios le bendiga. A usted y a su esposa, la hermana Heidi. Natacha, bonjour. Bonjour à Indirene et la petite famille. Marie-Huguette, bonjour. Bonjour à Leïka et à Gaël. Pascal, bonjour. Bonne route vers le travail. Alors, on m'a avisé aujourd'hui que c'est l'anniversaire de la sœur Noémie Barrios. Donc, on vous invite à la saluer. Ils nous écoutent habituellement en différé. Et je sais qu'il y a des proches qui nous regardent. Donc, vous pouvez lui dire qu'on lui a transmis un très joyeux anniversaire. Donc, ceux qui veulent saluer la sœur Noémie Barrios, vous pouvez le faire. Puis assurément, ils pourront regarder tout à l'heure les messages qui sont donnés ou vous pouvez la contacter directement aussi. Bonjour Nathalie, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Bonjour Claude, bonjour à toute la petite famille. Bonjour Gilles, bonjour Joanne. Bonjour Lucie. Bonjour Marie-Marthe. On salue Marjo si elle est à côté de vous. Donc Neymar vient vous accueillir avec son bruit d'eau matinale. On ne perd pas les bonnes habitudes. Voici bonjour à ma mère et à mon père. Jean-Gilbert, aux amis, bonjour. Que Dieu te soutienne, Nathalie. Alors, merci à tous pour la patience. Et puis, la compréhension dont vous faites tous preuve la semaine dernière, quelques problèmes encore techniques. Et hier, j'avais donc un examen qui faisait que je ne pouvais pas être là. L'examen était un peu plus tard en journée, mais j'avais la préparation le matin. Voilà pourquoi je n'étais pas en onde hier. Et puis, pourquoi je n'étais pas à l'église dimanche. J'ai eu un malaise durant une nuit. Je crois que c'était la nuit de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi. Assez fort. Et puis, donc, ça a provoqué une quinte de toux importante pendant plusieurs heures. Donc, ça m'a laissé avec les bronches et puis le larynx endommagé. Ce qui fait que j'ai toussé beaucoup depuis 4 ou 5 jours. Donc, je voulais pas venir à l'église avec ces symptômes grippaux, même si je savais que ce n'était pas ça. C'était tout simplement une irritation. Donc, mais pour m'assurer de donner l'exemple aussi. Donc, j'ai préféré rester à la maison pour le week-end. Voilà pourquoi j'étais pas à l'église dimanche. Rien de grave, simplement ces petits malaises qui arrivent trop souvent durant la nuit. Et qui provoque donc, comme j'ai dit, grosse quinte de toux pendant plusieurs heures. Alors, à force de forcer donc toute la cage thoracique devient endolorie, et puis les bronches et voies respiratoires sont aussi affectées. C'était tout. Ça tombait bien parce que c'était pas moi qui prêchais non plus ce dimanche, donc toute l'équipe était en place. Bonjour Rosie, bonjour Guy, bonjour Charlotte. Merci Pascal. Alors encore une minute et on va débuter. Et on vous invite tous à ouvrir vos Bibles, donc dans Jérémie au chapitre 29. On rappelle. rappelle que c'est l'anniversaire de la sœur Noémie Barrios aujourd'hui. Il nous écoute habituellement en différé. Vous savez que la sœur Noémie a eu des problèmes de santé cette année avec un traitement de chimiothérapie. Donc, assurément, vos salutations, vos pensées, vos prières qui lui sont communiquées lui feront grand bien. Et on lui souhaite bien entendu une année plus facile que celle qu'elle vient de traverser. Elle est toujours avec des traitements, mais que le Seigneur la soutienne et la fortifie. Alors, prions, et puis prions, et on va débuter ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes, pour cette occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole. Instruis-nous, garde-nous. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir notre entendement à ta parole. Et puisses-tu susciter en nous, Seigneur, les réactions pour lesquelles ta parole est partagée et prêchée. Qu'elle puisse apporter chez nous clarté, lumière, compréhension de ta volonté, mais aussi, Seigneur, changement et transformation que tu désires voir survenir, Seigneur, dans la vie des uns et des autres. On se soumet à ta volonté, on se soumet à ta parole, la déclarant comme toujours et éternellement la vérité par laquelle nous devons vivre et sur laquelle nous devons nous baser. Alors, merci de partager encore ce temps avec nous, Seigneur. Merci de partager ta sagesse, ta science et ton intelligence avec ton peuple. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, on ouvre dans Jérémie au chapitre 29, le verset 7. Je m'excuse si je commence à tout sauter. J'ai pas parlé beaucoup depuis 4 ou 5 jours, donc ça pourrait... se faire sentir. Alors, Jérémie 29, 7 nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » On répète tous ensemble. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alors, comme vous savez, cette semaine, pour ceux qui sont au Québec en tout cas, cette semaine, c'est la fête de la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et c'est la fête nationale donc des Québécois, qui a lieu donc le 24 juin de chaque année. Et qui tombe donc vendredi. Alors, en vue de se préparer à notre journée de prière de vendredi, on veut prendre un passage qui nous dit pourquoi, comment et quel est le plan de Dieu pour nous qui vivons ici au Québec. Mais je crois que ceux qui vivent dans quel que soit le pays devraient toujours se rapporter à ce verset de Jérémie au chapitre 29, et le verset 7, pour voir quelle devrait être l'attitude du croyant par rapport à sa nation ou par rapport à la nation dans laquelle il habite. Jérémie 29 survient dans cette étape qu'on a conclue la semaine dernière, en fait, lorsqu'on étudiait le passage d'Ésaïe. On disait que Dieu annonçait le rétablissement d'Israël, la restauration d'Israël après 70 ans d'exil, on fait un retour en arrière, en fait, cette semaine, où on prend un texte qui nous parle, en fait, du début de l'exil. Ce qui se passe à l'époque de Jérémie, c'est qu'effectivement, Babylone, qui va être suivi par la suite par le pays de l'Assyrie, comme on voit avec Damas aujourd'hui, mais Assyrie, le nom du pays. Donc, cette deuxième nation qui, elle aussi, va faire comme Babylone au tout départ, va venir jusqu'à Jérusalem, va prendre en captivité tous les jeunes nobles, les jeunes érudits de la génération, et vont les amener loin de leur famille, loin de leur nation, pour qu'ils servent le roi d'abord de Babylone, puis le roi assyrien par la suite. Et ce faisant, ceux qui sont partis en captivité sont effectivement abattus, sont effectivement tristes, et parmi eux se lèvent de soi-disant prophètes qui vont lancer des messages qui sont plus des souhaits que des messages. En fait, tout ce que ces prophètes vont dire, c'est que « N'ayez crainte, la délivrance de Dieu arrive bientôt, vous serez bientôt de retour à Jérusalem, et bientôt l'hégémonie d'Israël va être remise en place. » Jérémie fait cavalier seul, et Jérémie opère sous l'onction de l'Esprit de Dieu, sous l'appel de Dieu, et lui va avoir une prophétie qui vient de Dieu, qui va se concrétiser, qui va se matérialiser, en disant à l'ensemble du peuple, ne croyez pas ce que vos prophètes vous disent, lorsqu'ils vous disent que vous allez être rétablis rapidement, que c'est tout simplement une question de quelques jours, quelques mois, voire quelques années. Non, l'exil va durer 70 ans. Et c'est dans ce contexte que Jérémie arrive, un contexte qui est difficile. Alors, première chose qu'on doit comprendre, la prophétie de Jérémie s'est manifestée. Effectivement, le peuple a été en exil pendant 70 ans. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une prophétie doit annoncer quelque chose et cette annonce doit survenir. On entend parfois des supposées prophéties à droite et à gauche qui sont un peu un amalgame plutôt de désir personnel de se faire entendre, de désir personnel d'exhorter, d'enseigner l'ensemble des frères et des sœurs. Lorsqu'on parle du ministère du prophète, le prophète annonce une chose et la Bible nous dit que pour tester une prophétie, pour qu'elle s'avère vraie, il faut donc que cette prophétie s'accomplisse. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu et c'est tellement vague que la chose est toujours probable, potentiellement possible, mais si elle survient dans un an ou si elle survient dans 10 000 ans, ben c'est tellement vague qu'on ne peut pas la confirmer. Lorsqu'on parle de la prophétie de Jérémie, Jérémie est en train de dire, regardez, ce que les autres ont dit est faux, ce que l'Éternel vous annonce, c'est que la captivité va durer pendant 70 ans. Et effectivement, pendant 70 ans, Israël a été en exil. Ce que Dieu dit dans cette prophétie, c'est que, regardez, vous devez faire votre meilleur dans les circonstances. On vous rappelle, le châtiment de Dieu, c'est pour ça que Israël est amené en captivité, en exil. C'est parce qu'Israël a péché, s'est détourné des voies de Dieu, a fait ce qui était mauvais aux yeux du Seigneur. Et donc, comme châtiment, on permet à ce que l'exil survienne et à ce que on emporte les grands cerveaux, les grands sages de l'époque vers d'autres contrées. Et on laisse Israël et Jérusalem particulièrement dans la désolation. On brise les murs. On détruit le temple. On brûle le temple. Donc, on va avoir toute une période de 70 ans de désolation. Après quoi, il va y avoir restauration et reconstruction à l'époque de Néhémie et d'Esdras notamment. Mais à l'époque de Jérémie, même si Dieu dit « voici ce qui se passe et je vous explique clairement ce que vous vivez », voici aussi les recommandations que je vous donne. Et les recommandations de Dieu, c'est « rechercher le bien de la ville », donc Babylone en l'occurrence, « où je vous ai mené en captivité, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est pas une période joyeuse, c'est pas une période reluisante. Israël se trouve dans un état et dans un endroit où ils n'ont pas envie d'être, que ce soit Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les trois compagnons de Daniel, que ce soit Néhémie ou Esdras qui vont revenir de captivité pour essayer de servir à la reconstruction de Jérusalem. Aucun d'entre eux n'est heureux de quitter Jérusalem, de quitter Israël et d'aller en déportation vers Babylone ou vers l'Empire assyrien. Aucun d'entre eux n'est en train de se réjouir de cela. Mais Dieu leur dit, voici, pour que vous puissiez passer à travers cette période difficile, en cette période de châtiment, vous devez veiller au bien de la ville. Et ça, c'est un bon enseignement, particulièrement pour nous en Amérique du Nord, voire au Québec, et particulièrement pour notre Église, qui est, si ce n'est à majorité, tout au moins à moitié, constituée de personnes d'une première ou d'une seconde génération d'immigration. Et très souvent, ce qui se passe lorsqu'on arrive dans un pays étranger, c'est qu'on a le mal de notre nation d'origine. On vit en se languissant de ce qu'on se rappelle de notre nation. C'est ce qui va se passer particulièrement avec Néhémie, avec Esdras. On va voir comment ils sont désolés de ce qu'ils entendent parler de l'état du pays qu'ils ont laissé. Et ils se remémorent combien autrefois c'était un endroit glorieux, un endroit fertile, un endroit où il faisait bon vivre. Et lorsque nous, on quitte un endroit pour venir s'établir, comme au Québec, certains vont, au contrario de moi, certains vont pleurer la chaleur des pays exotiques d'où ils viennent, la chaleur et puis la belle température des pays tropicaux d'où on peut venir. Moi, vous savez que je me réjouis de la neige et du vent glacial qui peut survenir à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. C'est bon, Emma. C'est le facteur qui vient d'arriver. Désolé. Donc, certains vont vivre toute leur vie dans ce nouveau pays avec le regret, avec l'ennui profond de ce qu'était la nation d'où ils viennent, avec les souvenirs et la tristesse d'avoir dû quitter. Comprenons une chose, on ne quitte pas un pays la plupart du temps pour des raisons heureuses. Lorsqu'on quitte un pays pour aller vers une autre nation, c'est parce qu'on est en quête de quelque chose de mieux. En quête de paix, parfois, on quitte en cause d'un conflit. On voit actuellement tous les réfugiés qui nous arrivent d'Ukraine, mais il y a eu tous ces réfugiés qui venaient de Syrie il y a quelques années. Il y a aussi toute la vague de migrants et d'immigrants qui nous viennent pour des raisons économiques, donc qui viennent de pays moins bien nantis et qui espèrent trouver dans les nations occidentales un endroit où ils pourront effectivement assurer un futur, un avenir plus fertile, plus riche pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Souvent, l'immigrant va envoyer des fonds, puisqu'il fait partie de la diaspora, va envoyer des fonds dans la nation. On l'a vu important au niveau de la diaspora haïtienne. On l'a vu à travers les dernières années avec tout ce qui se passe au Liban. Donc, la diaspora libanaise qui envoie des fonds vers le Liban, vers leurs proches qui sont restés là-bas. Donc, on quitte un endroit et c'est pas par gaieté de cœur. Dans le cas de Jérémie et dans le cas de ses contemporains, c'est aussi dans un même contexte. Et Dieu va leur dire, ben, si vous voulez que vous puissiez prospérer, vous devez veiller à ce que la ville où vous êtes arrivé, malgré votre contre-cœur, malgré votre désarroi, vous devez veiller au bonheur et à la prospérité et à la paix de Babylone, parce que c'est moi qui vous y ai mené et parce que votre bonheur, votre bien-être dépend de la prospérité et du bonheur même de Babylone. Cette semaine, oui, on parle de ça dans le cadre du Québec et voir à veiller au bonheur du Québec. Vous savez que nous ne sommes que des passagers ou nous ne sommes que des pèlerins ici-bas sur terre. Notre nation n'est plus d'ici-bas. En tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons tout d'abord au peuple de Dieu. Et notre destination est la Jérusalem céleste. cet endroit où nous vivrons pour l'éternité avec Dieu. Mais d'ici là, nous sommes dans une nation de cette terre. Alors que vous soyez Québécois, qu'on appelle de souche ou pure laine, que vous soyez Québécois d'adoption volontaire, que vous soyez de Québécois d'adoption forcée parce que des parents vous ont mené ici ou parce que des circonstances difficiles vous ont mené jusqu'ici, que vous soyez ici de bon cœur ou de mauvais cœur, quelle que soit votre situation par rapport à la nation du Québec, vous devez prier pour elle et veiller à son bonheur parce que votre propre bonheur dépend d'elle, dépend du bonheur que la nation du Québec. Mais ça, ça se voit aussi, ou ça, ça peut aussi s'appliquer par rapport à toute situation dans laquelle on se trouve. Peut-être que tu te sens bien au Québec, mais tu te sens mal à ton boulot. Peut-être que tu te sens mal dans l'école où tu te trouves, ou dans la classe dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu te sens mal dans le voisinage qui est le tien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Quelle doit être mon attitude lorsque je suis placé dans un contexte qui ne m'est pas favorable? Et ce mot favorable, tout de suite, vous ramène à un passage de Paul où il va dire à Timothée d'insister en toute occasion, favorable ou non, pour prêcher l'Évangile. Alors, le mandat du croyant reste le même, qu'il soit dans un contexte facile ou dans un contexte difficile, qu'il soit dans un contexte favorable ou dans un contexte défavorable, le mandat du croyant est de répandre l'Évangile. Que tu aimes le peuple ou que tu ne l'aimes pas, et actuellement on est en train de voir avec le pasteur André lorsqu'il enseigne le mercredi, on est en train de voir l'histoire de Jonas, et Jonas va aller faire le ministère dans une nation qu'il n'aime pas, dans une nation qui a maltraité Israël et dans une nation où il va y aller de reculons, prêcher le message de l'Évangile ou prêcher le message de Dieu comme quoi le châtiment va tomber sur la ville. Il y va à contre-cœur. Parfois, on se trouve dans un endroit, mais peu importe quels sont nos sentiments par rapport à cet endroit, notre responsabilité et notre devoir prime sur nos sentiments. Alors, ton devoir par rapport au Québec, si on parle de toi établi aujourd'hui au Québec, mais ça pourrait être d'un immigrant en Europe, d'un immigrant particulièrement en France, puisqu'il y en a certains qui nous regardent aujourd'hui depuis la mère patrie, pour, en tout cas pour moi, que ce soit des gens qui nous regarderaient dans d'autres contrées, là où tu es, ton devoir par rapport à l'endroit où tu es, prime sur les sentiments que tu peux avoir par rapport à ce même endroit. Et Dieu va dire, recherchez le bien de cette nation. Rechercher, c'est le terme daras, D-A-R-A-S en hébreu. Rechercher, daras, D-A-R-A-S, toujours pour ceux qui prennent des notes, qui veut dire se résoudre à une chose, premièrement. On va avoir trois définitions. Se résoudre à une chose. Ça veut donc dire que Dieu dit, regardez, je comprends que vous n'êtes pas content d'être à Babylone. Je comprends que vous n'êtes pas content d'être dans la situation où vous êtes placé aujourd'hui, même si la situation est due à vous-même et à votre péché. C'est parce que vous avez péché que je vous ai amené dans cet endroit. Mais malgré tout, vous devez vous résoudre à. Donc, à un moment donné, on doit comprendre ce que je viens de dire il y a quelques instants, où notre devoir en tant qu'enfant de Dieu prime sur notre sentiment. Notre devoir, les choses que nous devons accomplir, prime sur notre envie, sur notre intérêt, sur notre désir, sur notre affection ou manque d'affection qui peut exister par rapport à une nation. Tu as un devoir par rapport à l'endroit où Dieu t'a établi. Que ce soit une ville, que ce soit un pays, que ce soit un emploi, que ce soit une école, que ce soit un voisinage, que ce soit même une famille dans laquelle tu es placé, tu as un devoir par rapport à cet endroit et à cet environnement dans lequel tu es placé. Et ce devoir était de veiller au bien de ce même endroit. Alors tu dois arriver à la conclusion, je dois, j'ai le devoir, j'ai la responsabilité de veiller au bien de l'endroit où je suis. Voilà pourquoi la première définition de rechercher daras veut dire se résoudre à. Deuxièmement, rechercher daras va aussi vouloir dire chercher avec minutie. Il y a des gens qui vont peut-être obtempérer par rapport à ce que Dieu veut pour eux concernant l'endroit où ils sont établis. Mais ils n'aiment tellement pas la nation, ou ils n'aiment tellement pas l'école, ou ils n'aiment tellement pas le voisinage, ou ils n'aiment tellement pas l'environnement dans lequel ils ont été placés, qu'ils vont se contenter de faire le minimum. Il y a des gens qui viennent, on va dire, dans une nation occidentale, mais ils détestent cet endroit. Et ils n'ont que seul désir de quitter au plus vite. Donc, ils n'investissent pas ce qu'ils sont, ce qu'ils ont pour le bien de l'endroit où ils sont, avec le seul désir de quitter rapidement. Ici, daras veut aussi dire chercher avec minutie. Chercher minutieusement. Travailler avec ardeur. Travailler avec entrain. Travailler avec faire un travail de qualité. Lorsque Dieu va dire à Israël et aux déportés, aux exilés, puisque Jérémie s'adresse essentiellement aux exilés, il va leur dire, je veux non seulement que vous compreniez que vous devez vous résoudre à veiller au bien de Babylone, mais de surcroît à cela, je veux que vous veilliez à ça avec minutie, avec intérêt, et en le faisant du mieux qu'il soit. Vous aurez et nous aurons des comptes à rendre sur comment nous avons traité la nation où nous sommes. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu sur comment on traite l'environnement dans lequel il nous a placés, même si cet environnement nous est défavorable. Il y a un verset tout simple qui résume un peu tout ça. Même si cet environnement devait être le plus hostile qui soit, la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. D'aimer comme Christ nous a aimés. Ça veut dire que Christ a été jusqu'à donner sa vie pour nous qui étions inimitié avec lui. Pour nous qui étions adversaires de la cause du royaume de Dieu. Et malgré tout, Jésus, Dieu fait homme, va offrir sa vie par compassion et par passion et par amour envers nous qui étions contre lui. Cet exemple doit être notre exemple aussi sur comment nous nous investissons dans l'environnement dans lequel le Seigneur nous place. Que ce soit une ville, que ce soit une province, que ce soit un peuple, une nation, que ce soit tout simplement un cercle professionnel, que ce soit un cercle scolaire ou académique, nous devons chercher le bien de cet endroit, nous devons nous résoudre à chercher le bien, nous devons le chercher avec minutie, et de surcroît à cela, rechercher veut aussi dire, daras veut aussi dire, s'enquérir, placer la requête et supplier. Non seulement on doit s'investir dans nos efforts, mais de surcroît à cela, s'investir dans notre travail tactile, notre travail tangible, mais de surcroît à cela, on doit aussi s'enquérir, placer la requête, supplier. Donc pour nous, en tant que croyants, on doit prier pour la nation. Très souvent, on va critiquer l'endroit où on travaille, on va critiquer notre cercle de voisinage, on va critiquer les collègues au travail, mais on ne prie pas pour eux. Nous devons non seulement veiller à constituer quelque chose qui est positif dans l'endroit où Dieu nous établit, on doit positivement s'investir dans cet endroit où Dieu nous a établi, on doit s'y résoudre, on doit prendre la décision, on doit ajouter à cette décision des actions tangibles, et de surcroît à cela, on doit aussi prier pour le bien de Babylone, pour le bien de cet endroit où on n'a pas envie d'être. Et c'est peut-être un défi pour plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et là, je parle peu importe où tu te places, que ce soit la nation, le pays, que ce soit la génération, que ce soit le cercle de travail, les collègues, que ce soit les collègues de classe. Peut-être qu'effectivement, tu es dans un environnement qui te déplaît. Au lieu de te morfondre, au lieu de perpétuer simplement le désarroi et la déception, commence à prier la bénédiction de Dieu sur cet endroit et commence à travailler pour améliorer les choses, pour apporter positivement des choses à cet endroit où tu es. Il dit rechercher le bien, daras, le bien, et vous allez tout de suite comprendre ce terme qu'on a vu à plusieurs reprises, le shalom de Dieu. Le shalom, c'est la paix. Lorsque les Juifs se saluent entre eux, ils disent shalom, qui veut dire que la paix soit avec toi, que la paix te soit accordée. Et ici, Jérémie, poussé par l'Esprit de Dieu, va dire aux captifs, cherchez le shalom pour cette nation, cherchez la paix pour cette nation. Donc que cette nation ne soit pas en conflit avec d'autres. Et plus encore, puisqu'il s'adresse à des exilés, à des gens qui n'ont pas envie d'être là où ils ont été placés par Dieu, il va leur dire, cherchez la paix. Donc tu ne peux pas prier pour la paix de ton environnement et toi rester en guerre avec cet environnement. Tu ne peux pas prier pour la bénédiction d'un endroit et détester les gens de l'endroit, ou détester le peuple de l'endroit, ou détester les gens qui t'entourent dans cet endroit-là. Et on revient toujours à l'exhortation de Jésus qui nous ramène toujours à l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain, voire pour notre ennemi. Le message de la chrétienté est un message d'amour. Et ce n'est pas juste un amour théorique, c'est un amour que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit manifester. Et c'est quelque chose que je crois qui a fait défaut à plusieurs chrétiens à travers les derniers mois ou les dernières années, lorsqu'ils se positionnaient concernant la pandémie, concernant les normes gouvernementales et tout ça. Certains le faisaient au nom d'une certaine justice, au nom d'une certaine liberté, mais manquaient tout à fait de compassion et d'amour dans leurs propos. J'ai vu parfois des échanges sur Facebook faits par des jeunes gens de notre congrégation qui parlaient avec véhémence et avec peu d'amour envers des représentants d'autres fois ou d'autres religions. Pire encore, je vois même au sein de la chrétienté des gens qui parlent à d'autres enfants de Dieu qui diffèrent sur un point doctrinal ou sur un autre avec beaucoup de dédain, avec moquerie, avec beaucoup de méchanceté dans les termes utilisés. Alors faisons attention. Ce n'est pas le message de Christ. Le message de Christ est qu'on parle à tous avec amour, avec grâce, avec compassion. Ça doit se remarquer dans tes écrits. Ça doit se remarquer dans tes paroles. Ça doit se remarquer dans tes actions. Dieu disait à travers Jérémie, vous êtes dans un endroit à Babylone où vous n'êtes pas content d'être, où vous n'êtes pas heureux de la situation, mais je vous dis de veiller à la paix et de rechercher la paix de Babylone en dépit de ce que vous pouvez sentir, de ce que vous pouvez croire, de ce que vous pouvez penser. Le même message s'applique aujourd'hui à nous aussi. On doit rechercher le bien de notre endroit. Et le bien, le shalom, veut dire la paix. Shalom veut dire la plénitude. Donc que Montréal, que le Québec, que le Canada, que peu importe l'endroit où tu te trouves, que l'école, que le travail, l'entreprise où tu professes le voisinage dans lequel tu habites travaille à la plénitude de cet endroit. Et enfin, le shalom veut aussi dire à la sécurité de cet endroit. Rechercher le bien de la ville, c'est notre responsabilité. Une ville où Dieu nous a amenés en captivité, où Dieu nous a déplacés, captivité ou menés en captivité, c'est le terme gala. C'est assez pittoresque comme terme lorsqu'on le met en français ou en anglais. Gala est un endroit où habituellement c'est joyeux, où c'est somptueux, où on fait la fête, où il y a un sens de joie. Et gala, en hébreu, veut dire mené en captivité. Donc, dans un endroit où on a été déplacé, même si tu n'es pas là où tu veux être, même si ce sont les circonstances ou ton environnement ou tes parents qui t'ont amené à être placé là, tu sais que ta vie appartient d'abord à Dieu. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Tu es là où tu es parce que Dieu t'a placé dans cet endroit. La première journée de ton emploi, tu disais probablement comme bon nombre des employés, « Hey, je suis content, j'ai un nouvel emploi. » Après 2 ans, parfois moins que ça encore, après quelques mois, quelques semaines, tu déchantes et là tu commences à critiquer l'endroit où tu es placé. Au lieu de critiquer, cherche le bien de l'endroit où tu es placé. C'est ta responsabilité, c'est ton travail, c'est ma responsabilité, c'est mon travail, même si je suis dans un endroit où j'ai été déplacé vers cet endroit, où c'est Dieu qui m'a amené là-bas. Amener en captivité veut dire aussi, gala veut dire aussi découvrir ou sans couverture. Un endroit où tu as été placé et tu n'as rien pour te protéger, rien pour te réfugier. Et parfois, effectivement, on se trouve dans des endroits où on est esselé, dans des endroits où on se sent à découvert. Donc, on peut être la cible. Donc, on peut être visible. Peut-être que tu es minorité visible ou minorité audible dans l'endroit où tu es. Et tu te sens blessé et tu te sens affaibli par ce statut. Malgré tout, tu as ce devoir de prier pour l'endroit et pour le bien-être et pour la paix de cet endroit. Voilà pourquoi même dans le Nouveau Testament, Paul va notamment parler sur quelle doit être l'attitude des esclaves par rapport à leur maître. Assurément, cette histoire d'esclavage et d'esclaves et de maître n'était pas un plan de Dieu. Mais il connaissait la méchanceté de l'homme et il savait comment elle allait se manifester. Et même dans cette méchanceté, Dieu trouvait un moyen. Et on l'a vu lorsqu'on parlait du jubilé à travers les derniers mois et les dernières années, on a vu comment Dieu parlait de restauration et de possibilité de libération, d'affranchissement pour l'esclave. C'était prévu dans la loi d'Israël. Mais de surcroît à cela, Dieu donnait aussi les directives à ceux qui étaient sous l'esclavage, à ceux qui étaient asservis, sur comment ils devaient se comporter avec leur, on va dire, leur asservissant ou leur asservisseur, ceux qui les malmenaient, leur maître. Regardez bien, lorsque Israël était en captivité en Égypte, on n'a pas vu Israël se lever pour manifester contre l'Égypte. On n'a pas vu le peuple d'Israël se lever malgré leur puissance en nombre, malgré leur richesse, malgré leur prospérité. On ne les a pas vus se lever contre Pharaon et contre l'Égypte. Qui s'est levé? Ça a été Dieu. Mais Israël est resté soumis à leur asservissant ou à leur maître pendant toute cette période-là. Et Dieu a cherché lui-même la liberté et la libération de son peuple en suscitant quelqu'un comme Moïse accompagné d'Aaron. Et on sait toute l'histoire. Mais tout ça pour dire, Dieu a donné même des règles de comment se comporter lorsqu'on est dans un contexte qui nous est difficile. Je comprends, j'aurais probablement pas beaucoup d'amen et de visage souriant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le message de cette semaine, c'est, regardez, même si vous êtes dans un contexte désagréable et vous êtes dans un contexte que vous n'aimez pas, vous avez malgré tout une responsabilité devant Dieu par rapport à cet endroit et par rapport à ces gens qui vous environnent. Et ça, personne ne peut s'en défaire. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, la Bible te dit que tu as une responsabilité par rapport à ta Babylone, par rapport à cet endroit où tu es en déplacement, par rapport à cet endroit, cet environnement qui te déplaît, qui ne te satisfait pas. Tu as une responsabilité. Et cette responsabilité, dans cet endroit où Dieu t'a placé, c'est de prier pour le bonheur, pour la paix, pour le bien, pour la plénitude et pour la sécurité de cet endroit. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité dans le contexte où je suis, dans le contexte où Dieu m'a placé. Et je le répète, un emploi, une école, un quartier, un voisinage, une ville, une province, une région, un peuple, un pays, peu importe quel est ton Babylone ou quelle est ta Babylone, tu as une responsabilité d'accepter ton mandat pour le bien de cette ville, de travailler avec minutie du mieux que tu peux pour le bien de cette ville, et troisièmement, de prier pour cette ville, de prier pour ta Babylone. Alors, trois responsabilités qui tombent sur toi. Accepter ton mandat de travailler pour le bien du pays. Deuxièmement, travailler de façon effective pour le bien du pays. Et troisièmement, prier pour le bien du pays. Alors merci Seigneur pour cette parole de ce matin qui vient nous chercher tous et chacun, parce qu'on passe tous par des moments où on est placé dans un endroit, dans un contexte, dans un environnement qui ne nous plaît pas autant que le précédent. Peut-être même un endroit qu'on voudrait fuir. Et avant que les portes ne s'ouvrent pour qu'on puisse quitter, nous avons malgré tout une responsabilité. Une responsabilité de chercher le bien pour l'endroit où tu nous as placés, pour l'endroit où tu nous permets d'être. Alors c'est peut-être une école, c'est peut-être un voisinage, c'est peut-être une ville, c'est peut-être un pays, un peuple, une nation qui est cet endroit où on n'aime pas être aujourd'hui. Mais je prie Seigneur que ma sœur et mon frère comprennent leur devoir qui passe avant leur intérêt, leur devoir qui passe avant leur propre désir, leur devoir qui est tout simplement une réponse à tes exigences envers ton peuple. Alors je prie Seigneur que tu trouves chez nous des gens qui te sont acquis, que tu trouves en nous Seigneur des enfants de Dieu qui sont disposés à obéir et à faire la volonté de Dieu avec une résolution ferme, avec un travail tangible, concret, positif, et qui prie pour la nation. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On prie que le Seigneur puisse arroser cette parole et que vous puissiez aujourd'hui même être de bons citoyens, de bons agents de Dieu là où il vous place, quel que soit l'endroit. Même s'il est difficile, même si le contexte n'est pas agréable, vous avez une responsabilité et je sais et Dieu sait que vous êtes capable d'être à la hauteur. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. On se retrouve demain matin pour la prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.